grand bien vous fasse, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 10h. Bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct ou en podcast. Comme une impression de mourir à la vue de cette araignée dans la cuisine, comme une sensation de défaillir en prenant l'ascenseur, comme un sentiment d'anéantissement à l'idée de se retrouver dans l'immensité du désert du Nevada. Ce matin, coup de projecteur sur ces phobies qui peuvent miner notre qualité de vie. Nous serions un Français sur cinq à souffrir de ces peurs démesurées par rapport à la réalité, mais bien réelles dans nos corps et dans nos têtes. Mais qu'est-ce qu'une phobie ? D'où viennent-elles ? Pourquoi est-il si difficile de les contrôler ? Quelles sont les conséquences dans la vie quotidienne? Quelles sont les stratégies efficaces pour les soigner? Panorama ce matin des phobies les plus récurrentes. Peur du vide, des insectes, des araignées, des souris, de conduire ou encore de prendre l'avion. Pour nous aider à y voir plus clair ce matin, deux grands spécialistes. Antoine Pellissolo, professeur de psychiatrie, chef de service à l'hôpital Henri Mondor à Créteil. Et avec le psychiatre Christophe André, notre ami du mardi. Avec nous également, Afsaneh Sabouy, journaliste au mensuel Ça m'intéresse. Notre complice ce matin. Nous attendons toutes vos questions et témoignages sur les phobies au 01 45 24 7000, sans oublier l'appli France Inter et la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Bonjour Guy Métodicino.
Bonjour Ali.
On retrouve tout au long de cette émission votre esprit d'escalier et vous évoquerez une phobie, la phobie pour un animal aquatique, et il ne s'agit pas d'un requin.
Hein. Oh non, les dents de la mer c'est trop facile. C'est beaucoup plus petit, mais ça me fout une trouille, mais d'enfer.
À tout à l'heure. Bonjour Eric Libio.
Bonjour Ali.
Rédacteur en chef culture à l'Express. Je dois l'avouer, je suis libiophobe.
Mais moi aussi, figurez-vous.
Mais moi aussi. Je me soigne. Quoi de neuf dans votre éternel retour en fin d'émission?
Ce matin, c'est un peu la zone, c'est même trois zones, puisque ça va être l'éternel retour des vacances.
A tout à l'heure, Eric Libio. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne, mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien Vous Fasse. Ali Rebbi.
Pour répondre à toutes vos questions sur les phobies, Antoine Pellissolo, bonjour.
Bonjour.
Professeur de psychiatrie, chercheur INSERM, chef de service à l'hôpital Henri Mondor et l'auteur au Cavalier Bleu de Phobie, faut-il en avoir peur ? Les idées reçues sur ces angoisses qui paralysent. Bonjour Christophe André.
Bonjour Ali.
Vous êtes psychiatre et vous êtes un grand spécialiste des troubles anxieux. Vous avez publié en poche chez Odile Jacob, Psychologie de la peur, crainte, angoisse et phobie. Phobie, ça vient donc du grec phobos. Notre fidèle Robert nous dit que c'est la peur morbide, l'angoisse éprouvée devant certains objets, actes, situations ou idées. Professeur Antoine Pellissolo, qu'est-ce qu'une phobie en psychologie et psychiatrie ?
Alors on va faire simple, c'est une peur pathologique, effectivement. Une peur qui prend le contrôle de la personne. Je pense que c'est la meilleure représentation qu'on peut avoir, parce que la peur, on sait tout ce que c'est. Mais on sait aussi, par moment, de perdre les pédales. On voit bien ce que ça représente. Bah, quelqu'un qui est phobique, c'est quelqu'un qui va avoir peur à ce point-là, un petit peu tout le temps, à chaque fois qu'il va devoir se confronter à la chose. Donc c'est un degré au-dessus de la peur et quelque chose qui va devenir envahissant.
Christophe André.
Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire les trois critères qui font qu'il y a une différence quand même entre les peurs banales et fréquentes et puis les phobies qui sont des maladies, comme le disait Antoine, c'est d'une part l'intensité de ce qu'on ressent. Si on a peur, on est mal à l'aise, mais bon, ça va, on peut survivre quand même à ça. Dans les véritables phobies, il y a une attaque de panique et les gens perdent vraiment pied émotionnellement. Le deuxième critère, c'est la capacité d'approcher ou pas. Si j'ai peur de l'avion, je prends l'avion quand même si je ne suis pas tranquille. Si j'ai une phobie de l'avion, je suis prêt à traverser l'Atlantique en bateau. Et le troisième critère, c'est la gêne au quotidien. C'est-à-dire, est-ce que finalement, cette peur pourrit ma vie parce que je pense tout le temps à ce que je redoute ou est-ce que j'arrive à penser à autre chose de temps en temps ?
Alors, la peur, c'est un système d'alarme propre à tous les êtres vivants. Nous sommes programmés par la nature et par l'évolution à éprouver de la peur en présence de certaines situations. Ça, c'est naturel, c'est normal.
Oui, et la peur est même une réaction indispensable à la survie. Si nous n'avions pas peur d'un certain nombre de choses, nous nous mettrions en danger. Ce qu'on voit, c'est que chez les tout-petits, les peurs apparaissent très spontanément. Un tout petit enfant a peur du vide, assez naturellement, a peur du noir, a peur des gros animaux qui font du bruit. Et c'est très bien. C'est des systèmes pour introduire, non pas une fuite éperdue, mais une certaine méfiance, une certaine prudence. Au fond, la fonction naturelle de la peur, non pathologique, c'est de nous rendre rendre prudent. La phobie, évidemment, dépasse cet objectif.
Antoine Pédissolo.
Oui, et puis on peut tout de suite rajouter que cette fonction primaire, très, très archaïque de la peur, va faire que quand il va falloir la raisonner, et quand elle est excessive, c'est qu'on perd un petit peu la raison autour de ça et donc il faut la travailler. Mais parfois c'est très difficile parce que c'est tellement une fonction vitale, c'est comme si on voulait dérégler un système d'alarme qui est vital, mais parfois ça résiste très 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 durement, donc c'est là-dessus qu'on va travailler quand il y a des processus pathologiques, parce que vraiment c'est ce que décrivent les phobiques, c'est ça me prend aux tripes et je ne peux plus faire les choses.
Elle est fine, la frontière entre le normal et le pathologique, Christophe André, en matière de peur et de phobie?
Oui, et puis elle oscille aussi à certains moments de nos vies. Par exemple, on voit nos patients qui sont guéris de leur phobie peuvent continuer d'avoir des peurs. C'est-à-dire guérir quelqu'un qui a une phobie de l'avion, c'est pas le rendre désireux de toujours monter dans les avions. On sait faire qu'il ait une peur normale et contrôlable quand il prend l'avion. Comme beaucoup de monde, hein, vous savez, quand ça commence à secouer dans les avions, quand il y a des trous d'air, moi je regarde autour de moi, sur les visages, je vois la plupart des gens, on la trouille quand même, plus ou moins.
Guillemette Odissino.
J'ai cru entendre dans votre définition de notre cher dictionnaire qu'il y avait l'adjectif morbide. Est-ce que les phobies, cette peur panique, elle n'est pas liée au fait qu'en fait on associe l'objet ou enfin la chose qui nous fait peur à la mort, c'est-à-dire qu'on pense qu'on va mourir à cause de ça?
Assez fréquemment, effectivement, par exemple, dans certaines formes de phobie intense, on a ce qu'on appelle des attaques de panique. Et pendant une attaque de panique, les deux peurs les plus fréquentes, c'est la peur d'y passer, que le cœur s'arrête, qu'on fasse une rupture d'anévrisme cérébral, etc. Ou aussi la peur de devenir fou, quand même. Beaucoup de phobies, les gens décrivent qu'ils ont peur de perdre la raison, de faire n'importe quoi.
Oui, alors la petite nuance, c'est que morbide, dans ces termes-là, c'est plutôt pathologique. Hein, c'est pas forcément la mort. Mais en arrière-plan, et c'est là qu'on rejoint les hypothèses autour de l'imaginaire qui peuvent quand même aggraver les peurs, il y a quand même très souvent la peur, soit d'être séparé des gens avec qui on est proche, soit de mourir, effectivement, même si c'est pas toujours verbalisé comme ça.
Antoine Pédissolo, il existe trois grandes familles de phobies, l'agoraphobie, les phobies sociales et les phobies spécifiques. Expliquez-nous d'abord l'agoraphobie. Contrairement à une idée reçue, il ne s'agit pas de la peur de la foule.
Oui, il vaut mieux dire c'est la peur dans la foule, entre autres, parce que ça peut être ailleurs, et très souvent, c'est très surprenant, on peut avoir la même peur, donc en gros d'avoir un malaise, une défaillance dangereuse dans un lieu non sécurisé, non sécure. Et donc la foule, par définition, on est souvent incapable de bouger, de sortir, il y a l'aspect menaçant de la foule, mais c'est uniquement lié au fait qu'on ne peut pas en sortir facilement. On peut avoir la même réaction dans un autre lieu fermé, mais aussi bizarrement dans un lieu très ouvert, donc c'est un phénomène assez étrange d'ailleurs au niveau probablement cérébral, de pouvoir assimiler ces types d'environnements quasiment opposés à cette même sensation de risque, de défaillance et de danger lié à l'environnement.
Je parlais en introduction du désert du Nevada, l'agoraphobe va ressentir une peur panique à l'idée de se retrouver dans un désert par exemple.
Oui, en général il n'ira pas, hein, ouais. faut être clair, mais c'est l'idée de ne pas avoir de repères en fait, hein. Donc les repères sont très loin par définition dans le désert, vous n'avez aucune vu sur quelque chose qui va vous servir de lieu de sécurité.
Et l'agoraphobe a peur des lieux où il ne peut pas s'échapper facilement en cas de besoin. Je pense à un ascenseur bloqué ou bien à un avion.
Oui, un avion, on ne peut pas descendre quand on veut. C'est vraiment un peu comme, plus fréquemment vraiment, et souvent pas dit, l'autoroute, la voiture. Sur l'autoroute, c'est l'endroit vraiment clos. Il y a des barrières à l'entrée, de chaque côté, à la sortie. Et si vous vous imaginez avoir un problème, à part la bande d'arrêt d'urgence où on lui dit faut pas s'arrêter parce que c'est interdit, c'est la panique, en l'occurrence.
Christophe André.
Oui. Ce sont des patients qui souffrent beaucoup parce qu'effectivement, comme le disait Antoine, leur peur obsédante, c'est « et si j'avais un malaise à cet endroit ?» Donc en gros, les patients qui sont des agoraphobes et qui ont, on les appelle aussi souvent des paniqueurs, ils sont tranquilles chez eux, sachant que le médecin est au bout du fil ou s'ils habitent à côté d'un hôpital. Et après, dès qu'ils commencent à s'éloigner d'endroits où ça pourrait être embarrassant de faire un malaise, c'est affreux. Et dans la série des conséquences handicapantes, là aussi, ce que décrit Antoine Pélissolo à l'instant, c'est-à-dire l'incapacité pour un agoraphobe de conduire sur autoroute ou même sur le périphérique, quand il y a des embouteillages et tout, conduit souvent ces patients à faire des détours kilométriques avec leur voiture hallucinants. Plutôt que de prendre une portion d'autoroute de 10 km, ils vont en faire 50 sur une petite route parce que là, ils peuvent s'arrêter n'importe quand sans être klaxonnés, interpellés, etc.
C'est quoi exactement une phobie sociale, Christophe André ?
Eh bien, c'est une peur sociale devenue pathologique. Des peurs sociales, on en a tous. Il nous arrive à tous de ressentir du trac au moment de parler devant un public qui nous intimide. Il nous arrive à tous d'être un peu embarrassés de faire certaines démarches sociales, une déclaration d'amour, faire des reproches à quelqu'un, rencontrer des inconnus qui nous impressionnent un peu. Mais on le fait quand même. Lorsqu'on a une phobie sociale, ça devient impossible. On a extrêmement peur de tout un tas de situations sociales où on se sent potentiellement jugé.
Et qu'est-ce qu'une phobie spécifique, Antoine Pellissolo ?
Alors, pour faire simple, on va dire que c'est tout le reste. si j'ai le bon rôle, là, à la fin, on aurait pu commencer par ça. En fait, les phobies spécifiques, c'est, on appelait ça des phobies simples, justement, avant, parce qu'il n'y a pas le scénario là, dont on a parlé, soit je vais faire un malaise et je vais rester coincé dans le désert du Nevada ou sur l'autoroute, ni je vais être humilié par le regard de tous les gens qui m'écoutent, etc. Et ça me fait mal parce que j'ai pas envie d'être humilié. En fait, si vous avez une phobie, par exemple, d'un animal, vous n'avez pas de scénario comme ça sur qu'est-ce qu'il va penser de vous et qu'est-ce qu'il va vous faire, c'est juste, je ne supporte pas la chose. Donc c'est vraiment une réponse très, là, très basique aussi, très archaïque, très instinctuelle, de peur, conditionnée par un objet précis ou une situation précise.
Afsane Essaboui de Ça m'intéresse, vous êtes atteinte d'une phobie.
Ouais, je pense qu'on peut dire que c'est une phobie. En fait, c'est même d'ailleurs l'anecdote qui m'a poussée à faire le papier, c'est qu'on avait publié un article sur les couleuvres et il y avait un énorme serpent qui prenait les deux tiers de la page et j'étais dans le métro en train d'essayer de lire le journal et vraiment j'ai tourné la page immédiatement comme un enfant qui cache la sorcière dans le livre de contes et je savais au fond de moi que c'était ridicule, mais j'étais incapable et j'ai pas pu lire l'article. Et quand je l'ai raconté à mes collègues, ils se sont tous moqués, évidemment. Et ils m'ont dit, voilà, la journaliste santé qui a une phobie, c'est quand même le comble. Et j'ai essayé de faire le papier pour justement comprendre, est-ce que c'était une phobie ou est-ce que c'était une simple peur? Et je pense qu'en fait, le fait que je tourne la page et qu'il y a une vraie stratégie d'évitement, bah, on est un peu dans la phobie quand même.
Vous confirmez, professeur Pellissolo, docteur Christophe André, vous confirmez?
Je crois que le diagnostic va être simple, mais banal aussi, parce que évidemment, les gens qui rigolent, ils savent très bien qu'eux-mêmes aussi, en général, ils vont avoir certaines peurs.
Écoutons la chanteuse Louane, qui évoque une phobie très spécifique, confidence à Anne-Elisabeth Lemoine dans C'est à vous, en 2015.
Vous avez une phobie des bananes. Il faut que vous nous expliquiez ça, Louane, parce que ça, on n'a jamais vu, en fait.
Peur des bananes.
Ça s'appelle d'ailleurs la phobie des bananes.
La bananophobie, là, je sais pas quoi.
Ça s'appelle la bananophobie.
Ah, vraiment?
Je ne suis pas la seule. Vous pourrez vérifier sur Internet.
C'est vrai?
Il y en a qui sont arachnophobes, il y en a qui sont claustrophobes, et ben moi, je suis bananophobe.
Mais ça quand?
Alors oui, ça fait rire les gens en général. Je ne sais pas pourquoi.
Mais ça se passe comment?
Depuis que je suis toute petite.
On vous met une banane et...
Ah, je... part en pleurant et en criant et en courant.
Mais elle se précipite pas sur vous, contrairement à une araignée.
Non, mais je peux pas.
C'est, les kiwis, tout ça, ça se passe
bien. Non, mais en fait, c'est des phobies alimentaires, ça existe sur plein de choses.
Ouais. Mais sauf que juste
et
les
moi,
voix.
C'est la banane.
Non, mais laissez-moi. Non, mais laissez-moi. Manger ma banane.
Et j'ai lu dans un article sur Vice qu'il existe bel et bien des phobiques des bananes. Alors on aurait envie de se moquer de Louane, mais en fait non, il s'agit d'une vraie souffrance, Christophe André.
Alors, il faut toujours croire les patients. Donc, si elle dit que c'est une phobie et que ça la fait souffrir, il faut croire les gens. On n'a pas à juger depuis notre expérience. Ceci dit, c'est pas la phobie la plus fréquente. En tout cas, c'est pas celle qu'on voit le plus souvent en consultation.
Antoine Pellissolo, il existe des phobies socialement admises, la phobie des serpents, par exemple. Et puis, il y a des phobies plus difficiles à confier. Là, Louane a confié quand même une phobie un peu spéciale.
Oui, parce que en fait, on peut avoir des phobies sur un peu tout et n'importe quoi. Et c'est très individuel dans ces cas-là, donc c'est souvent l'histoire de la personne probablement qui doit expliquer des choses. Par contre, les plus fréquentes, celles qu'on connaît tous, parce que elles concernent effectivement des dangers qu'on peut s'imaginer. On a du mal à s'imaginer le danger d'une banane, mais par contre, le vide, la vitesse, des animaux réellement menaçants, ça, on se représente. Donc, on a moins de jugement, mais pour autant, ça reste une souffrance, effectivement, comme disait Christophe.
Guillaume Todicino.
Donc, certaines phobies comme ça, assez spécifiques, pittoresques. Enfin, je ne conteste pas la souffrance de ces gens, mais là il faut pratiquement alors faire de la psychanalyse, enfin revenir à des causes complètement secrètes et enfouies pour trouver ce genre de, enfin la raison de ces peurs là. C'est qu'un serpent, effectivement, tout le monde sait la preuve, on se moque moins, un serpent, tout le monde sait que ça fait peur, mais une banane.
Oui, alors c'est là qu'on en vient aux questions des causes éventuelles. Les causes, elles sont toujours complexes et quasiment jamais connues dans ces histoires-là. Sauf une histoire particulière, encore une fois, qui peut expliquer qu'il y a eu un conditionnement, on dit, un traumatisme.
Oui, c'est ça.
Voilà. Et ça, ça mérite quand même d'être creusé au cas par cas.
On va y revenir tout à l'heure. Est-ce que c'est un abus de langage de parler d'homophobie, de grossophobie, de xénophobie, Antoine Pellissolo?
Oui, parce que dans ce cas-là, c'est pas la peur, c'est le rejet. Mmh. Alors c'est vrai que c'est des rives de langage, mais donc il faut se méfier parce que souvent ça apporte, enfin les mots veulent dire des choses et il faut à chaque fois rappeler effectivement. Et d'ailleurs pareil pour les fruits ou pour les autres objets, souvent on est à la frontière aussi de ce qui est un peu le dégoût, de l'aversion, et donc on sort un peu de phobie pour aller un peu vers les tocs parfois aussi.
Floum demande, vous parler des phobies qui sont des peurs envahissantes concernant des objets précis. Qu'en est-il des peurs concernant des objets abstraits? Peur de la trahison, de l'abandon, Christophe André?
Là, on a tendance à ne pas parler de phobie, mais plutôt d'angoisse, d'inquiétude, d'appréhension. C'est-à-dire, dans la phobie, en général, il y a vraiment quelque chose de très, très spécifique dans l'environnement et qui correspond à la réaction de peur. Les gens qui ont peur, par exemple, d'être trahis, d'être abandonnés, c'est plutôt ce qu'on appelle des angoisses. C'est-à-dire, ils se font des scénarios anticipés. Et si un jour il m'arrivait ça? Et si un jour il m'arrivait, voilà, d'être abandonné, d'être trahi, qu'on dise du mal de moi, et ça suffit à nourrir leurs inquiétudes.
Allez, nous attendons toutes vos questions sur les phobies au 01 45 24 7000, sur l'appli France Inter et la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Claire Destacan et Antoine Vandeville m'ont aidé à préparer cette émission avec l'aide de Nicolas Bauve, et c'est réalisé par Stéphanie Texier.
Myself, I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man's soul and faith. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Made damn sure the pilot washed his hands and sealed his fate. Meet you, hope you guess my name. But what's puzzling you is the nature of my game. Stuck around St. Petersburg when I saw it was a time for a change. Killed the Tsar and its ministers, Anastasia screamed in vain. I rode a tank, held a generous rank, when the blitzkrieg raged and the bodies stank. Pleased to meet you, hope you guess my name. Oh yeah, I was puzzling you with the nature of my. Watch with glee while your kings and queens fought for 10 decades for the gods they made. I shouted out, who killed the Kennedys? When after all, it was you and me. Let me please introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I laid traps for troubadours. They reach Bombay. Pleased to meet you. Hope you get my name. Oh yeah. But what's puzzling you is the nature of my name. Oh yeah. Get down in it. Get down.
Rolling Stones, Sympathy for the Devil.
Grand bien vous fasse.
J'ai fait un rêve cette nuit. J'ai rêvé qu'on s'écrasait.
Quoi ?
Sans blague. C'était horrible. Vous étiez dedans.
Quoi ?
Oh non.
Sur France Inter.
10h28 et nous attendons toutes vos questions sur les phobies. Les psychiatres Christophe André et Antoine Pellissolo vous répondent au 01 45 24 7000.
18 juillet. Pour Adrien Monk, commence une journée comme les autres. Il passe l'aspirateur dans son appartement, puis il nettoie l'aspirateur, puis repasse l'aspirateur.
Oui, il a ses particularités.
Par exemple ?
Il a peur de l'altitude, peur des microbes, des mouches, peur du lait.
La foule, les ascenseurs, le feu.
Les lapins, les tunnels, les ponts aussi.
Les bateaux.
Le café sans caféine.
Les éclairs.
Le vent, il a peur du vent.
Les œufs blancs.
Oui.
Les gens à poil. Celle-là, elle est dans son top 3. Je dirais la mort en 1 et les gens à poil en 2.
J'aimerais pas être à la place du célèbre détective Monk, hein, affecté d'un tas de
épouse,
d'un tas de phobies. Toutes les phobies n'ont pas le même impact dans la vie quotidienne. Afsané Saboui, les conséquences des phobies peuvent être lourdes dans la vie courante pour certains phobiques.
Ouais, c'est une des choses qui m'a le plus frappé dans ce papier, c'est qu'on en rigole comme ça, mais il y a des gens dont ça a vraiment pourrit le quotidien. Si vous avez la phobie des chats et que votre voisin a décidé que son chat se promenait facilement, vous ne pouvez pas sortir de chez vous. On a le témoignage d'une dame qui a une phobie un peu particulière, qui est la phobie de vomir. Et en fait, elle a une espèce de bouffée d'angoisse à chaque fois qu'elle dépose ses enfants à l'école, de peur qu'ils attrapent la gastro-entérite. On ne se rend pas compte, mais au quotidien, ça doit être très envahissant.
Antoine Pellissolo.
Oui, alors c'est notamment ces phobies-là qui deviennent extensives parce qu'on a l'impression qu'il faut se protéger en permanence. Donc, attraper un microbe, malheureusement, surtout à certaines périodes, ça peut être obsédant parce que ça peut vous tomber dessus à tout moment.
Christophe André, les personnes phobiques sont conscientes que c'est une peur excessive par rapport au danger réel. Je sais qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur, mais c'est plus fort que moi.
Oui, c'est une de leurs souffrances d'ailleurs, d'une part parce qu'elle voit qu'elle n'arrive pas à se contrôler, et d'autre part parce qu'elle n'arrive pas à convaincre leur entourage qu'elles ne font pas exprès. Quelqu'un qui n'a pas de phobie, qui a des simples peurs, a l'impression qu'avec un petit peu d'énergie, un petit peu de raisonnement, ça, on pourrait faire passer le truc. Mais en réalité, c'est comme l'allergie. Vous savez, la phobie, c'est comme une peur allergique. C'est-à-dire, quand un allergique est en train de s'étouffer devant vous, vous ne dites pas, fais un effort, tu risques rien. Vous comprenez qu'il y a une maladie organique qui est en train de se mettre en marche. Et pour les phobiques, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils ont à l'intérieur du cerveau des petites zones qui s'appellent les amygdales cérébrales, qui sont en train de balancer des signaux d'alarme épouvantables et donc ils perdent totalement pied. C'est hors de leur contrôle au moment de la crise d'angoisse.
Et malheureusement, le degré d'au-dessus, c'est aussi qu'on finit par trouver, à changer notre façon de voir le monde et d'évaluer le danger. Et certaines personnes sont un peu perdues après. Elles ont tellement peur qu'elles finissent par penser réellement quand même que le danger existe. Et c'est vrai que c'est plus compliqué pour en plus aller de l'avant et combattre ces peurs.
Bonjour Tanguy.
Oui, bonjour.
Vous avez 20 ans, vous habitez Paris, et vous êtes claustrophobe. Comment ça se manifeste au quotidien ?
Au quotidien, je peux pas prendre le métro à Paris, donc c'est assez handicapant, même si y a le bus. Le TGV, ça fait très très longtemps que je n'ai pas pris. Je peux pas prendre les ascenseurs, j'habite au 6e étage, mais j'ai toujours pris l'escalier depuis 10 ans maintenant. C'est tout un tas de petites pénalités qu'on se rajoute au quotidien qui sont un peu pénibles, mais au fond, on arrive à vivre avec.
Qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes dans le métro, si jamais vous devez vous y retrouver qu'est-ce que vous ressentez physiquement et psychologiquement?
Déjà, si je me retrouve dans le métro, je suis déjà préparé mentalement. Enfin, je me dis déjà que je sais qu'il va m'arriver une peur, je sais à quoi m'attendre. La dernière fois que j'étais dans le métro, j'ai une crise de panique. En fait, c'est une crise de panique. On commence à suffoquer. On a une respiration qui s'accélère. On perd son calme, on perd son contrôle. Et on se bat contre ça. On essaye de se calmer, mais rien n'y fait. Et moi, j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit de fermer les yeux, de pas y penser. Mais en fait, c'est trop fort, quoi. Et y a le ventre qui se serre. On peut rien faire. On est victime de notre corps et de ce qu'on peut réagir.
Comment ça s'est manifesté la première fois cette claustrophobie, Tanguy?
En fait, Moi, ça fait 10 ans que je suis claustrophobe et en fait, j'ai pris le métro la 4 à Paris, qui est un métro assez bondé le matin pour aller en cours. Mmh. Et c'était en 5e. J'ai pris le métro, c'était entre deux stations. Le métro s'est arrêté entre dans un tunnel. En fait, ma partie de la rame était dans le tunnel, l'autre partie était sur le quai. Et il y avait beaucoup de monde et j'ai comme, enfin, le chauffeur a commencé à discuter au haut-parleur, à expliquer la situation et à dire dans combien de temps ça se finit. Sauf que c'était inaudible, on comprenait pas ce qu'il disait. Moi, j'ai entendu plein de gens qui faisaient des, enfin, qui étaient surpris de ce que disait le chauffeur au haut-parleur. Moi, je l'avais pas entendu. Et c'est, en fait, c'est venu tout seul, quoi. J'ai suffoqué. Ça m'est déjà arrivé d'être coincé avec plein de monde dans un métro, mais là, c'était la fois de trop, et j'ai vraiment senti une sensation que j'avais jamais vécue, donc je savais pas ce qui m'arrivait. Et du coup, une personne gentiment m'a laissé sa place, parce qu'elle a vu que je commençais à m'agiter, je commençais à retenir mes larmes, je commençais à être tout rouge, à respirer, à accélérer ma respiration. Et du coup, on m'a laissé sa place et je suis allé en cours le jour même, et le soir même, je pouvais plus prendre le métro, en fait.
Antoine Pellissolo.
Alors là, je pense qu'on voit bien le rapport avec l'agoraphobie dont on parlait tout à l'heure, et les liens entre agoraphobie et claustrophobie sont vraiment très subtils. Hein, ça se ressemble beaucoup dans ce cas-là, parce qu'en fait, il y a clairement une espèce d'attaque de panique qui a déclenché la peur ensuite. Et après, c'est toujours une visualisation, une anticipation de ce qui pourrait arriver dans un lieu fermé comme le métro ou ailleurs.
Et on sent chez Tanguy cette peur de mourir. On ne meurt pas d'une phobie, sauf évidemment si on est malade ou fragile, ces fortes émotions peuvent avoir des graves conséquences, mais c'est quand même assez rare.
Non, c'est pas rare. Ce n'est pas possible de mourir de peur. Ça, je pense qu'au moins le message est clair.
Mais si je suis très cardiaque et fragile. Ben,
si vous êtes très cardiaque, vous mourrez d'une maladie cardiaque, malheureusement.
Et c'est vrai que
les émotions. Non, poussée émotionnelle d'ailleurs autre. Hein, ça peut être la colère, ça peut être. C'est rare quand même, mais c'est vrai que c'est parfois un facteur déclenchant. Et on est très marqué par ça parce qu'on s'identifie. Mais vraiment, non, on peut pas mourir de peur dans 99,9% des cas.
Christophe André.
Oui, souvent les gens nous disent oui, mais si j'ai un anévrisme. On leur dit, vos risques de mourir aux toilettes en faisant caca sont beaucoup plus grands. Et Antoine a raison, non, on ne meurt pas de peur, mais l'histoire de Tanguy est exemplaire. C'est-à-dire, vous avez ce wagon coincé dans le couloir du métro. La plupart des gens sont mal à l'aise, on commence à avoir chaud, on manque d'air, la plupart des gens sont stressés, sont un peu tendus. Et dans le lot, quelques-uns qui ont une sensibilité physiologique du corps, de l'esprit, font ce qu'on appelle les attaques de panique, là, une crise terrible. Et c'est comme un traumatisme, c'est-à-dire à partir du moment, c'est comme une agression, mais à partir du moment où vous avez vécu cette agression de l'intérieur, une espèce d'insécurité intérieure terrible, ça ne vous quitte plus jusqu'à ce que vous fassiez une thérapie, évidemment.
Guy Metodicino.
Oui, mais vous dites qu'on ne meurt pas de peur, mais cette crise-là, elle vient parce qu'on se dit qu'on ne va pas en sortir de ce satané wagon, qu'on va y rester en fait, qu'on va mourir dedans.
C'est les scénarios catastrophes,
mais finalement c'est quand même pas si loin des angoisses dont vous parliez. C'est-à-dire qu'on anticipe inconsciemment quelque chose, c'est-à-dire on va mourir étouffé dans ce wagon, le métro va plus jamais redémarrer, les gens vont nous écraser, le désert du Nevada n'a pas de sortie. Donc on anticipe la mort quand même.
Bien sûr, mais elle n'arrivera pas. Simplement, ce qui va arriver, c'est un malaise gigantesque.
Éric Libio.
Non, moi je vais revenir à ce que disait sur Christophe André, sur le traumatisme. Est-ce que ces traumatismes-là ou ces scènes, c'est effectivement des scènes quotidiennes comme Tanguy là, qui c'est dans le métro, donc tout le monde prend le métro. Est-ce qu'il y a des traumatismes beaucoup plus forts? Est-ce que c'est inné? Est-ce que c'est acquis? Est-ce que l'éducation, les parents peuvent entretenir les phobies? Comment est-ce qu'on se débrouille avec tout ça?
C'est un mélange de tout ça. On sait qu'on a sûrement en nous un potentiel plus ou moins fort à faire des phobies probablement, parce qu'il y a de la génétique dans tout ça. Et puis après il y a ce que l'on a entendu, ce que l'on a vécu dans sa vie, et puis des événements. Alors, un événement comme ça, pour nous, c'est pas un vrai traumatisme. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de danger réel pour la personne. On meurt pas non plus parce qu'un wagon va s'arrêter 5 minutes. Et souvent, ce dont on se rappelle la personne, c'est le fait d'avoir eu un premier malaise. Donc, tout est parti de là. Mais peut-être qu'elle aurait pu faire son premier malaise dans la rue, ailleurs, à un autre moment.
Par rapport à ces histoires de traumatisme, on a souvent des gens qui viennent nous voir en nous disant « Voilà, j'ai une phobie des chiens et je sais pourquoi. » J'ai été agressé par un chien à l'âge de 6 ans. Et c'est sûr que ça joue un rôle dans le déclenchement. Par contre, si on prend le nombre de gens qui se sont fait mordre par des chiens, la plupart ne deviennent pas phobiques. Donc c'est exactement ce que disait Antoine, c'est la rencontre d'un événement et d'une fragilité qui nous fait basculer ou non dans une phobie.
Afsane et Sabouy.
Et alors moi, il y a une chose qui m'a frappée dans le papier, c'est que le simple fait que les parents vous répètent pendant toute votre enfance « fais attention à telle chose parce que c'est dangereux » ou le simple fait que la mère ou le père soit terrorisé par les insectes ou par les souris, ça peut conduire au déclenchement d'une phobie chez l'enfant.
C'est quasiment héréditaire dans certains cas.
Alors justement non, a priori c'est plutôt l'exemple qu'on a eu et dans le plus souvent c'est utile d'apprendre les choses qui sont dangereuses à ses enfants, donc l'éducation c'est essentiel et il y a une forme de conditionnement. Parfois quand c'est des peurs pathologiques qu'on transmet, là c'est plus embêtant et il faut être attentif à ça.
Tanguy, vous êtes encore avec nous, vous avez essayé de vous soigner de votre phobie?
Non, je suis pas soigné de ma phobie. Je suis allé voir beaucoup de psychologues, enfin de spécialistes, psychologues, hypnotiseurs. Et en fait, c'est vrai, je rejoins ce que vous dites, c'est exactement ça. C'était qu'un élément déclencheur de ma peur. Il y avait un traumatisme qui était qui est toujours enfoui au fond de moi, qui date d'il y a beaucoup plus longtemps. Et en fait, ce qu'ils expliquent, c'est que il faut trouver ce traumatisme qui peut venir même du temps où j'étais dans le ventre de ma mère. Il faut travailler sur ça et en fait c'est que comme ça qu'on peut résoudre la peur en se battant sur toute la peur, c'est-à-dire prendre le métro et prendre le train quoi.
Antoine Pellissolo.
Oui, alors on peut chercher s'il y a d'autres facteurs antérieurs. C'est rarement très efficace aussi. Il faut vraiment plutôt travailler dans la gestion actuelle des émotions et dans changer de comportement, ce qui n'empêche pas de revenir sur le passé quand c'est nécessaire, mais c'est vraiment une partie seulement de la démarche.
Merci beaucoup Tanguy d'avoir témoigné. Bonjour Florence.
Oui, bonjour.
Vous appelez de Paris et vous êtes phobique.
Oui. Alors moi je suis phobique depuis la plus tendre enfance. Des chats, voilà. Alors ça me gêne particulièrement quand je pars en vacances. Par exemple, il y a des pays qui sont impossibles pour moi, tous les pays méditerranéens. Et ben, il y a beaucoup de chats. Il y a des terrasses où des chats peuvent arriver. Et donc je peux pas. Je panique totalement. Il faut que je me lève. Je peux pas rester assise dès qu'il y a un chat qui arrive. Parce que j'ai un sentiment de danger. Et en plus, alors ce que vous disiez, c'est très juste, et la honte. J'ai une espèce de honte par rapport à ça, parce que les gens, quand j'étais petite, on se moquait de moi. Bon, maintenant, j'ai 67 ans.
Vous êtes blindée.
J'essaye de me dire, t'es comme ça. J'essaye d'assumer. Mais c'est compliqué d'assumer, parce que j'ai l'impression de gêner les gens autour de moi, parce que, ils comprennent pas. Voilà.
Christophe André.
Oui, cette phobie des chats, malheureusement, comme le dit Florence, elle est déconcertante pour beaucoup de gens, parce qu'autant on comprend qu'on puisse avoir peur de l'avion, autant un chat, quand on aime les chats, là, vraiment, mais c'est une phobie très répandue. Ronsard, le poète Ronsard, a fait un poème sur la phobie des chats. Napoléon avait une phobie des chats, c'est extrêmement répandu, effectivement.
Qu'est-ce que vous pensez des interprétations psychanalytiques qu'on peut peut-être creuser pour essayer de comprendre pourquoi, dans l'inconscient de Florence, pourquoi Florence est phobique des chats? Je sais que vous n'êtes pas forcément un fervent de la psychanalyse, mais est-ce que peut être une piste, Christophe André?
C'est pas une question d'être fervent ou pas. C'est-à-dire, moi, je suis médecin, donc je suis fervent de ce qui marche, de ce qui soulage les patients. Donc, c'est toujours... la psychanalyse, elle pousse au fait de se demander d'où ça vient. Et c'est une bonne question, de se demander d'où ça vient, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie, qu'est-ce qui s'est passé avec mes parents. Il faut toujours commencer par cette question. Par contre, il ne faut pas s'y enfermer. Il y a des gens qui vont passer 10 ans, 20 ans sur cette espèce de piste de l'introspection sur les phobies, là où au bout d'un moment, on pourrait aussi tester autre chose, et ce qu'on appelle les thérapies comportementales, par exemple.
Oui, parce que si on veut trouver des causes, là, c'est toujours spéculatif, mais la phobie du chat, on peut aussi la comprendre comme juste un bug du codage. Il y a des félins qui sont vraiment dangereux, et avoir peur d'un animal qui ressemble à un lion ou un tigre, ça ne paraît pas complètement aberrant. Donc ça peut s'expliquer par un petit mécanisme cérébral assez simple, et pas forcément un refoulement très complexe derrière.
Mais alors justement, dans ces méthodes comportementales, est-ce que Florence pourrait ne plus avoir peur des chats, ne plus avoir peur des chats. Florence, est-ce que ça existe d'être vraiment guéri?
Oui.
Bah, ou est-ce que ce sont juste des contournements des...
Ah bah, ça dépend ce que vous appelez la guérison. Si, d'abord, il faudrait que Florence considère que ça vaut la peine de faire l'effort d'une thérapie par rapport à une phobie qui n'est peut-être pas ultra handicapante, même si elle est gênante. Et deuxièmement, il est tout à fait possible de faire que Florence, simplement, n'adore pas les chats. C'est-à-dire, si un chat qui rentre dans la pièce, bah, elle n'est pas obligée de partir ou de demander à ce qu'on le fasse sortir. Possible. Ça, c'est un but très réaliste, bien sûr.
Merci beaucoup, Florence, de nous avoir appelé au 01 45 24 7000.
Est-il vrai qu'il est rare qu'on en guérisse ?
De quoi ?
De l'acrophobie.
Eh bien, j'en ai parlé à mon docteur. Il n'y aurait qu'un choc émotionnel capable de te guérir, d'après lui. Je ne pense pas que tu aies l'intention de replonger dans toi pour le vérifier.
J'espère guérir sans ça.
Et comment ?
Eh bien, j'ai une théorie. Le tout est de m'habituer à l'altitude. Je vais te montrer ce que je veux dire. Allons-y. Premier étage. Voilà.
Et maintenant, l'étage au-dessus.
Parfaitement, je monte au deuxième. Et voilà. Excellent test. Je regarde au-dessus de moi, je regarde en bas, je regarde au-dessus de moi et je regarde en...
Extrait de Vertigo de Hitchcock. Alors, Eric Libio, vous m'avez dit, hors antenne, que vous aviez une légère phobie du vide.
Oui, mais j'ai une grande admiration pour Hitchcock. Mais non, mais c'est vrai, c'est par rapport à une question de tout à l'heure entre la peur des choses matérielles et immatérielles, c'est vrai que chez Hitchcock, il y a une espèce de phobie morale. En tout cas, Scotty, dans Vertigo, il culpabilise parce qu'il a le vertige et il a le vertige parce qu'il culpabilise. C'est vrai qu'il est responsable de la mort de... Est-ce que c'est lié, souvent, cette espèce de phobie morale et puis de phobie physique? Est-ce que c'est juste Hitchcock qui s'en amuse?
Non, ce sont des facteurs... C'est des boucles d'auto-aggravation. C'est-à-dire, plus j'ai peur, plus j'évite, plus ma peur augmente. Plus j'ai honte, plus ça nourrit les émotions de peur. Donc, c'est vrai que c'est... Bon, c'est pas forcément un truc qui va causer. C'est pas parce que voilà, j'ai honte de ma peur que je me crée des attaques de panique ou des choses comme ça.
Parce que là, il est responsable de la mort d'un policier qu'il n'a pas pu sauver à cause de son...
C'est un facteur aggravant, certainement.
Alors, on reçoit énormément de questions sur comment soigner le vertige. Plus globalement, quels sont les thérapies les plus efficaces pour soigner les phobies? Je pense évidemment aux thérapies cognitives et comportementales, les fameuses TCC, Christophe André. Pourquoi sont-elles recommandées en cas de phobie? Il s'agit d'une sorte de désensibilisation, un peu comme pour les allergies?
Oui. Ben, elles sont recommandées parce que toutes les études dont on dispose montrent que c'est ce qui marche le mieux. Donc déjà, quand on est médecin, soignant, ben, on doit quand même s'adosser aux données scientifiques de notre mieux. Même si, une fois de plus, on peut guérir de sa phobie par d'autres biais. Hein. On parlait tout à l'heure de l'hypnose, de la psychanalyse, mais en gros, c'est quand même plus logique de commencer par des thérapies comportementales. Et le principe, effectivement, c'est une sorte de désensibilisation, de réadaptation. Si les patients sont d'accord, ils ne le sont pas tous, on va leur apprendre peu à peu à se réapprocher de ce qui leur fait peur. D'abord, parfois, en regardant des photos, on parlait tout à l'heure de la phobie des serpents, parfois, on va commencer à regarder des photos, à demander aux patients de poser la main sur la photo, après des vidéos, parce que le mouvement, que ce soit pour les serpents, les araignées, etc., joue un rôle très important. Donc, regarder les vidéos en respirant bien, en éteignant peu à peu la réaction de peur, puis s'approcher de la véritable situation. Pareil pour l'acrophobie. Première marche d'un tabouret, deuxième marche, etc.
Antoine Pellissolo.
Oui, alors ça peut paraître simpliste, hein, parce qu'on se dit, il n'y a qu'à le faire. Alors très souvent, on le fait soi-même et on n'est pas phobique grâce à ça. Et puis quand on a une phobie, on a besoin souvent d'être un petit peu guidé. Donc ça peut être même un ami ou un proche qui va servir un petit peu de guide. Mais quand on est vraiment démuni, le thérapeute va servir surtout à poser les bonnes étapes. C'est-à-dire, il ne faut pas commencer trop vite, trop loin et avoir le bon rythme. Donc c'est quand même une technique particulière qu'il faut maîtriser.
Éric Libio.
Oui, c'est vrai que j'avais un peu peur du vertige et depuis que j'habite au 13e étage, en fait, l'habitude fait que j'ai de moins en moins le vertige. En même temps, je suis fasciné, j'ai de moins en moins peur parce que je vis tous les jours où je vais sur mon balcon et donc je suis au 13e étage. Est-ce que c'est une espèce d'apprentissage
C'est un très bon exemple. C'est-à-dire, ces techniques de désensibilisation nécessitent la répétition. Et c'est là où c'est moins poétique que ce qu'on voit dans les films d'Hitchcock, souvent où la guérison se passe parce qu'il y a une révélation, on comprend un truc du passé, et pof, on est guéri. Bon, nous, on voit pas souvent ça en thérapie. Mais par contre, répéter très régulièrement, et donc, quelle quelqu'un qui a une acrophobie, qui habite au 13e étage et qui, tous les jours, fait l'effort de regarder un peu par son balcon, en quelques semaines, ça va être plié.
Pardon, mais moi, j'ai ma petite phobie, ce sont les méduses. Alors, vous êtes bien mignon, mais je peux pas me désensibiliser aux méduses. Moi, je veux bien regarder toutes les photos de méduses qui existent, mais moi, ma peur, c'est de rentrer dans l'eau et qu'il y ait des méduses. Et elles vont me piquer. Donc, c'est mon corps qu'il faudrait désensibiliser contre les... Donc, comment je me désensibilise contre les... ma peur des méduses?
C'est pas pareil. C'est-à-dire, soit vous avez peur des méduses. Moi, j'ai peur des méduses.
J'ai peur de me noyer.
Quand on se baigne,
on
regarde qu'il n'y ait pas de méduses partout.
C'est ça, j'ai peur de me noyer.
Je crois. Parce que si vous aviez une phobie, vous ne rentreriez pas dans l'eau. Du tout. Au cas où.
Afsaneh Sabouy, dans Ça m'intéresse, vous avez rencontré le professeur Roland Jouvent, psychiatre et directeur du centre Émotion CNRS à la Pitié-Salpêtrière. Il existe d'autres manières de soigner une phobie?
Alors en fait, c'est de la thérapie cognitivo-comportementale, mais il utilise la réalité virtuelle. Et notamment, il travaille avec des personnes âgées qui ont la phobie de la chute, notamment parce qu'elles ont déjà fait une chute qui a provoqué des conséquences importantes. Et il travaille en partenariat avec la RATP. Et du coup, dans le casque de réalité virtuelle, on leur met les images de l'escalator géant qui est à Châtelet, qui doit être à peu près l'escalator le plus angoissant pour les gens qui ont peur des chutes. Et il travaille donc progressivement à se réadapter à l'idée de mouvement sur un escalier.
Je sais que l'utilisation de la réalité virtuelle, ça se pratique notamment à l'hôpital de la Conception à Marseille. Il y a aussi l'EMDR, c'est-à-dire la désensibilisation et le retraitement par mouvement oculaire, Antoine Pellissolo, pour lutter contre les phobies.
Non, vraiment, là, la bonne indication, c'est ce qu'on appelle les psychotraumatismes, notamment l'état de stress post-traumatique. Donc, parfois, des phobies sont en fait des traumas, mais c'est limité à ça. Je crois qu'il faut plutôt bien circonscrire les indications.
Et alors moi, il y a une des choses qui m'a frappée, c'est qu'en fait, il y a plein de gens chez qui la phobie vient et disparaît assez spontanément, enfin sans forcément rien faire, comme si on avait eu un passage dans sa vie où on était plus anxieux et plus phobique et que ça s'annulait, ça disparaissait tout seul.
Bonjour Aline, bienvenue.
Bonjour.
Vous appelez de Saint-Pierre-d'Oloron, bienvenue dans l'émission.
Oui, je vous remercie.
Quelle est votre phobie, Aline?
C'est l'avion. Et l'ascenseur, mais l'avion, ça me pénalise beaucoup, parce que j'ai maintenant 67 ans et j'ai pris l'avion en 1973, très exactement, pour aller en URSS à l'époque. C'était à Tupolev, donc il y avait eu l'accident au Bourget avant, j'avais un mauvais pressentiment, mais bon, je l'ai pris quand même. Et à un moment donné, on a vu le commandant de bord se pencher sur le hublot et regarder. Effectivement, il y avait un réacteur en feu. Et ils nous ont dit, en raison des conditions météorologiques, on va atterrir à Saint-Pétersbourg, à l'époque c'était Saint-Pétersbourg, au lieu de Moscou, alors que le ciel était tout bleu. Et en arrivant, on a vu les pompiers qui attendaient. Donc après, pendant tout le séjour, j'ai eu peur du retour. Et puis après, ça a été terminé, j'ai plus jamais pu prendre l'avion. Et j'aimerais bien pourtant.
Qu'est-ce qu'on peut faire avec Aline, Christophe André, rapidement?
Bon, pas de chance, effectivement. Double traumatisme. Ce qui est compliqué avec la phobie de l'avion, c'est qu'on peut pas, comme la peur du vide, se pencher tous les jours sur son balcon, prendre tous les jours l'avion. Il y a des stages que propose la compagnie Air France, notamment, qui vous font rentrer dans une cabine de simulation de vol avec des trous d'air. On comprend un peu mieux comment marche un avion. C'est une première étape intéressante. Et puis, effectivement, voir un thérapeute qui fasse des thérapies comportementales pour donner des clés aussi pour maîtriser la montée de l'angoisse.
Merci beaucoup Aline de nous avoir appelé. Merci Antoine Pellissolo. Je recommande la lecture de votre livre « Les phobies, faut-il en avoir peur ?» Je recommande également « Vous êtes votre meilleur psy en poche » chez J'ai lu. Merci également Christophe André. « Psychologie de la peur » est disponible en poche chez Odile Jacob. Merci Afsaneh Sabouy. On peut lire le papier sur les phobies paru dans le tout dernier numéro de Ça m'intéresse. Dans un instant, Éric Libio de l'Express et son éternel retour.
Tu t'éclipses, flottant dans les vapeurs d'éther. comme un diamant vert. Je ne vois jamais ton visage. Autour de nous, à l'infini, je sens vibrer l'énergie noire des étoiles et des galaxies, du futur et de son miroir.
Minanas interprété Nuit Fantôme. Éric Libiot de l'Express, dans l'éternel retour cette semaine, il est question des vacances d'hiver.
Et oui, parce qu'on est à peu près au milieu du gué, et ce n'est d'ailleurs pas gai pour tout le monde, notamment pour ceux qui rentrent de vacances ce week-end et qui vont repartir au boulot ou à l'école dès lundi. Pour d'autres, c'est donc la mi-temps. Et pour ceux de la zone 3, tout commence ce soir. Oui, c'est l'éternel retour des vacances, c'est même l'éternel retour des retours de vacances, avec l'éternel chassé-croisé, comme on dit dans les points route aux infos. Chassé-croisé qui est d'ailleurs une expression venue de la danse. Quand deux danseurs se croisent, l'un fait un pas chassé à gauche, l'autre un pas chassé à droite, dans une sorte de chorégraphie macronienne. Mais ici, ce sont deux voitures dans une circulation effectivement très dense. C'était donc le premier point info langue française. Mais il y a en fait un malentendu avec les vacances. Le mot n'est pas lié au moment où on se gèle sur les pistes de ski, mais au moment où on laisse son poste de travail vacant. Il y a une vacance de poste au boulot, et comme dans une sorte de vase communicant, il faut essayer de ne pas laisser vacant le temps ainsi récupéré, ce qui est quand même du quasi-masochisme. Le poste est ainsi en vacances, au singulier, car son titulaire est en vacances au pluriel. Bien que les vacances, il peut aussi y avoir une vacance de l'esprit au singulier, comme un vague à l'âme au masculin, et pas seulement quand on part en vacances à la mer. Bien sûr, il peut aussi y avoir des vacances très singulières, c'était le second point info langue française. Mais la question se pose, faut-il avoir peur des vacances? D'ailleurs, Ali, je vous remercie d'avoir choisi le thème de cette émission en fonction de ma chronique. En fait, vous ne vous êtes pas beaucoup foulé pour trouver le thème, mais sans doute êtes-vous déjà un petit peu en vacances pour être à ce point en roue libre, ce qui répond déjà à la question posée.
Merci, Eric.
Il faut avoir peur des vacances parce que le boulot n'est quand même pas bien fait quand on y pense trop. On y pense longtemps avant de partir et longtemps après être rentré. Alors que franchement, les vacances, c'est quoi? On va au ski pour se casser une jambe, on visite des musées bondés, on va à la plage s'asseoir sur son voisin, on fait de longues marches qui cassent les pieds, on visite les églises en longue procession, on se brûle la barbe au barbecue quand ce n'est pas autre chose. Et c'est arrivé à ce stade de ma chronique que je cite Jean-Claude Van Damme sur France Inter. Alors attention, éloignez les enfants, les propos peuvent choquer. Ce grand homme a dit... Le chômage, ça existe parce qu'il y a du travail. S'il n'y avait plus de travail, il n'y aurait plus de chômage. Le problème, c'est le travail. On dit jamais assez que ce type est un vrai génie. Eh bien oui, le problème, c'est le travail. Et si le travail n'existait pas, ben les vacances non plus. On n'en aurait plus peur, plus de jambes cassées, plus de musées bondés, mais une soif de culture enfin assouvie dans le calme et une curiosité enfin rassasiée dans la plénitude. Que des moments tranquilles, pépouze, comme dit ma fille.
Et pépouze?
Ouais, pépouze. Comme dit Christophe André, vous dites souvent pépouze aussi, j'ai remarqué.
Moi, hein. Vous dites souvent pépouze.
Bah, tranquille. On est entre tranquille. Pépouze, voilà. D'accord. N'oublions pas que vacances vient du latin vacare, être sans chemise, sans pantalon, sans ski, sans guide touristique, sans journée à occuper absolument, sans peur et sans reproche. C'est QFD et c'était mon troisième point langue française. Il faut donc supprimer les vacances ou bien supprimer le travail. Je vais donc lancer un référendum d'initiative de moi-même sur la question. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme et revient toujours.
Merci Éric Libiau pour votre éternel retour que l'on retrouve tous les vendredis avec l'Express. Merci à la documentation de Radio France, aux standardistes de France Inter et à l'excellente programmation de Muriel Pérez. Lundi, on s'intéresse à la médecine du bon sens avec le docteur Saldman et Michel Lejoyeux sous le regard acéré de Baptiste Beaulieu. Question témoignage au 01 45 24 7000. À la technique ce matin, Antoine Gomez et Pierre-Yves de Rolin.